nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Voici le moment venu d'écrire mon histoire. Nous sommes le samedi 3 juillet 1999 et il est 13h30. J'ai pas tellement envie d'écrire. Alors pour me donner du courage et m'habituer à écrire, je vous donne mes pensées du moment et ce que j'ai fait cette année. Une année bien pénible et qui a passé très vite. Au début de l'année, j'ai enregistré mon histoire Imami, ce qui m'a donné pas mal de temps et de fatigue. 138 heures de fête. Puis, j'ai enregistré 3 ou 4 autres petites histoires. Ensuite, je me suis acheté un mini-disque, ce qui m'a forcé de copier sur le mini-disque mes 60 cassettes de 90 minutes de bruit et de musique. Une cassette égale 3 heures de temps pour la copier. Puis, j'ai fait la préparation de ma nouvelle histoire, c'est-à-dire résumé de ce que je vais développer, écrire. Pour le moment, cela me fait 300 pages. En plus de tout ça, j'ai lu quelques livres, vu quelques films, fait des émissions en direct à la radio, été à Paris, j'ai fait comme toujours mon journal et bien entendu travaillé pour vivre. Et a été pénible parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et que ça m'a fatigué. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Car maintenant, je ne peux pas me reposer. Je dois écrire. Et je n'ai pas envie d'écrire. C'est trop pénible. Et puis la chaleur est enfin là. J'ai plutôt envie de ne rien faire. Mais si je me laisse vivre, je n'écrirai jamais et même je ne ferai jamais rien. Et tellement bien, en ne faisant rien, en laissant ses pensées vagabonder. Ne soyons pas feignants. Allons-y. Dehors, il fait une chaleur insoutenable, avec un soleil très lumineux et un ciel bleu sans nuages. Pour ne pas avoir chaud, je laisse mon appartement dans la pénombre et c'est juste si j'ai chaud. Cela me permet de ne pas m'endormir sur ma feuille, comme l'année dernière. Hier au soir, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi en regardant ma vidéo « Mort à Venise ». Je n'ai pas été ennuyé par la chaleur cette nuit. Ce matin, je me suis réveillé encore fatigué, Après ma toilette et mon petit déjeuner, j'ai lu un peu. Je suis allé à la bibliothèque changer de livres. J'ai de plus en plus de difficultés à trouver des livres à lire, de chercher un livre. Au bout d'une heure, j'ai envie de quitter la bibliothèque. Moi qui aimais bien lire, j'aime moins, ou plutôt, de lire m'ennuie. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. J'ai dû trop lire de livres et connaître trop bien les trucs pour savoir à l'avance ce qui va se passer, et même quelquefois, je m'imagine un dévouement ou un dénouement autre qui aurait pu être intéressant ou plus surprenant. J'ai même envie de réécrire certains livres à ma façon, avec de nouvelles évolutions. Il est vrai que beaucoup de livres sont assez insignifiants. Mon jugement est peut-être dur, est dû à ce que j'ai trop lu de livres. Et puis tous ces livres étrangers qui, sous prétexte qu'un peuple a beaucoup souffert, on nomme n'importe quel écrivain grand écrivain, et tout ce qui s'est dit dans ce pays est un chef-d'œuvre. C'est comme pour le cinéma. La France est le seul pays qui produit des films de metteurs en scène qui, eux, sous prétexte qu'ils viennent de pays en difficulté, doivent absolument faire des films, et leurs films doivent être des chefs-d'œuvre. L'on donne des milliards pour des films qui n'intéressent personne et sont mal faits, mal joués, et n'ont pas d'histoire ou si peu. J'ai acheté une machine à écrire pour écrire mes histoires, parce que j'écris de plus en plus mal. Je ne vais pas m'en servir pour écrire toute mon histoire, parce que j'écris très lentement avec, et lorsque je suis devant ma machine, j'ai la tête vide. Je suis incapable d'écrire quoi que ce soit. Aucune idée, rien. Petit à petit, cela viendra. En tout cas, je l'espère. J'ai de moins en moins envie de sortir. Je me sens bien chez moi. J'ai tout ce qu'il me faut. Mes livres, mes cassettes, mes films, ma radio. J'ai besoin de rien d'autre. Pourtant, j'aime bien la nature, mais pas les voyages. Et puis, si je suis en pleine nature, dans un paysage agréable, je suis incapable de créer. Il me faut un décor familier et neutre, pour que mes pensées ne puissent pas être discrètes par ce qui m'entoure. Je suis incapable d'écrire ou de lire dehors. Je peux réfléchir en marchant, mais en marchant dans un décor que je connais par cœur et qui ne me distrait pas, pour que je marche sans faire attention que je marche. J'ai toutes les peines du monde à travailler proprement, à bien écrire. Je le fais un moment, après ça se dégrade, car si je m'applique trop, mes pensées s'envolent. Je déteste réfléchir technique, machine, lorsque j'ai à écrire, à créer ou à écrire, mais cela m'empêche de penser. J'aime pas être envahi par les machines, et pourtant, je suis bien obligé de m'informer sur les machines nouvelles et d'en avoir. En ce moment, j'ai un problème qui m'énerve. Je dois choisir rapidement entre le mini-disque et une machine genre ordinateur pour le son. J'hésite beaucoup. La machine est peut-être mieux, mais elle va me prendre plus de place. Il faudra en plus un écran de télévision, un clavier, etc. Si j'achète cette machine, je ne sais pas où je vais pouvoir la mettre chez moi. J'ai à résoudre des problèmes techniques et artistiques. Avec toutes ces machines qui sortent ou vont sortir, ça va me donner le tournis. Je ne saurais pas comment faire, quoi choisir. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est que cette année, j'ai commencé une vidéo pour mon employeur. J'en ai pour 2 ans. Voilà beaucoup de travail, de choses à penser. Nous avons eu des élections cette année, c'était des élections pour l'Europe. Pour montrer que l'on est démocratique, l'on fait voter les gens. Mais l'on veut par contre que le vote soit comme on a décidé qu'il soit. Comme on a décidé qu'il soit à l'avance. On veut que le résultat soit comme ça. Si on regarde bien, qui a gagné les élections? Entre les abstentions, ceux qui ne sont pas faits inscrire sur les listes électorales sont ceux qui ont voté pour des listes politiques qui n'étaient pas pour l'Europe, les deux listes extrême droite, la liste Pasqua, etc. Cela fait plus de 80% et peut-être même 90% de gens qui sont contre l'Europe. Avec un tel score, l'on devrait, si l'on était démocratique, arrêter l'Europe, ou plutôt l'unification de pays européens. On ne le fait pas parce que ça intéresse les politiques, la bourgeoisie, la mafia, les patrons. Pour les banquiers, les patrons industriels et mafieux, les frontières ouvertes, une seule monnaie, une seule politique sociale et de justice, c'est plus simple pour s'enrichir. Pour les politiques, en outre, ils peuvent entrer au Parlement européen, c'est avoir 80 000 francs par mois, plus primes, plus voiture de fonction, logement de fonction, école privée pour les enfants, etc., etc. Qui paye tout ça? C'est le peuple qui, avec des impôts directs, les gens qui sont imposables, et tout le monde avec les impôts indirects. Le pauvre, même s'il ne paye pas d'impôts, lorsqu'il achète son pain, en paye, car l'impôt est dans le prix du pain. Nous payons des impôts pour la ville, la région, le département, l'État, l'Europe, l'OTAN, l'ONU, les pays sous-développés, l'aide sociale. En plus des impôts, nous avons la sécurité sociale, la retraite, les ACEDIC, les péages de toutes sortes, routes, tunnels, autoroutes, etc., etc., l'électricité, le gaz, le téléphone, l'eau, les charges de votre logement. Une fois enlevé tout ça de votre salaire, que reste-t-il? Avec ce qu'il reste, il faut bien vivre, se nourrir, vous habiller, vous chauffer, payer les prêts, économiser en cas de chômage, maladie, vieillesse. Et s'il reste quelque chose, se distraire un peu, la télévision, la radio, etc. Les patrons, l'État dit, les salaires sont trop élevés. Mais si on demandait moins aux gens de choses à payer, ils auraient moins besoin d'argent. Il y a tant de choses obligatoires à payer et l'on fait tout pour que les gens aient de plus en plus de choses à payer. On impose une vie de dépenses. l'arrivée politique, supprimer la région, le département est largement suffisant, cela fera des économies. Faisons des logements avec moins de parties communes, sans glace, sans surplus, ça fera moins de charges. N'incitez pas aux gens à avoir du matériel chez eux. Le téléphone portable qui coûte cher est-il indispensable pour tous? Est-ce vraiment utile un tramway dans certaines villes? Une nouvelle bibliothèque ou salle de spectacle? Y a-t-il tant de personnes qui vont à l'opéra? Un espace vert serait peut-être plus utile qu'un nouvel opéra ou salle de spectacle, etc., etc. Il faut se dire, c'est que chaque fois que l'on décide de faire une dépense, c'est le contribuable qui paye ou les impôts indirects. Et il faut tout de même payer. Ceux qui veulent les transports en commun gratuits sont des imbéciles, car il faut bien payer le personnel, le chauffeur, le mécanicien, l'achat du car, l'entretien, le dépôt, le gardien, le technicien, etc., etc. Tous ces gens et ces matériaux ne sont pas gratuits. Personne n'accepterait de conduire un car ou de le réparer gratuitement. Et si l'utilisateur ne paye pas, c'est au contribuable de le faire. Et même une personne qui ne prendra jamais le car payera pour le transport. Pour les impôts de la ville ou impôts indirects, ceux qui ont voulu Théo gratuitement, non, ce n'est pas gratuit. Tout le monde paye, même celui qui ne s'en sert pas. Arrêtons de dire que c'est à l'État de payer, que ce doit être gratuit. Ceux qui demandent cela sont des imbéciles car rien n'est gratuit. Ou c'est le consommateur du service ou du produit qui paye, ou c'est l'ensemble des contribuables qui payent. C'est comme lorsque l'on dit que c'est la publicité qui paye. C'est faux. C'est le consommateur qui paye, car dans chaque chose qui sont achetées ou les services que l'on a, que l'on demande, il y a dans le prix de la publicité de ce produit ou service. C'est le consommateur qui paye la publicité. Une télévision, une radio, un journal qui n'a pas de redevance ou de prix, c'est payé par la publicité qui, elle, est payée par le consommateur ou le client. Rien n'est gratuit sur Terre, comme les cadeaux de promotion, de fidélité, sont payés, car sur chaque produit, il y a une part du prix du cadeau. Les personnes qui fabriquent envoient les cadeaux, ne le font pas gratuitement. Il faut de l'argent pour payer et il faut bien prendre l'argent quelque part. Donc, il est prélevé sur chaque commande que fait l'ensemble des gens. Même si ceux qui n'avaient pas de cadeaux comme cela, ça permet d'avoir plus d'argent et de faire des cadeaux plus importants. Je viens d'avoir une grande joie. Je ne vais pas vous dire quelle joie, parce que des personnes vont le savoir et par jalousie me dénigrer. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont jaloux. J'ai une personne que je connais, qui lui arrive quelque chose d'heureux, je suis heureux pour lui. Mais non, la plupart des gens sont jaloux. Alors ma grande joie, je me la garde pour moi. Tant pis. C'est aussi une joie que de faire participer sa joie. Or cela m'attriste. Il y a quelques années, j'ai aimé une personne. Cette personne est tombée d'une malade. Elle a une maladie contagieuse. Cette personne a sa vie dépossédée. Et moi aussi. Je me sens dépossédé, en quelque sorte, puisque je ne peux plus avoir cette personne. Je me sens frustré, puni comme elle. Je la désire toujours, je pense toujours à elle, et je ne peux la voir. Mon désir de la posséder est si fort Saint-Arjour que cela me fait mal. Il y a certaines choses que l'on fait avec une personne qui ne peut s'oublier. On ressent tout ce que l'on a ressenti avec elle. La douceur du toucher, l'odeur, l'union, etc. Je comprends les gens qui ne supportent pas la mort de l'être aimé parce qu'ils désirent toujours l'être aimé. Son corps a besoin de l'autre. J'ai écrit il y a quelques années de cela sur ce sujet. Un homme apprend que l'être aimé n'est plus. Il en souffre énormément et continue à le désirer. Un jour, il rencontre une autre personne qui a eu une liaison avec son aimé. Il veut la posséder pour ressentir ce qu'a dû ressentir son aimé et toucher ce qu'elle a touché pour la faire revivre. Malheureusement, l'autre ne ressent pas la même chose que lui, il n'a pas le même désir d'amour par procuration. Il le quitte après une courte liaison. Dans cette histoire, j'ai sublimé ce que je ressentais et ce que j'aurais pu faire moi. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Dans mes petites histoires, je développe plus facilement un comportement, une idée. Elles sont mieux construites que les grandes. Parce que dans mes grandes histoires de plus de 3000 pages, il faut un thème qui puisse tenir le coup longtemps et ce n'est pas facile. Il faut pas non plus oublier le fil conducteur en cours de route. Le feuilleton, le vrai feuilleton, est dur à écrire. C'est pour cela que l'on triche un peu et que c'est un ensemble de plusieurs histoires que l'on met bout à bout avec un fil conducteur, bien sûr, entre chaque histoire. Il faut qu'il y ait le récit central qui relie le tout pour donner une certaine cohérence au tout. Il faut que les gens pensent, écoutent toujours, croient, pensent et croient et toujours écouter la même histoire. Aujourd'hui, comme c'est mon premier jour d'écriture, je vais écrire qu'une vingtaine de pages. Mais à partir de demain, ce sera le double. Je ne suis pas trop fatigué à écrire tout ça. Il est vrai que je n'ai fait que d'écrire ce que j'avais dans la tête. Comme cela, je me suis vidé de choses impures. La place est nette. Je dois faire attention de ne pas écrire des scènes trop longues. Il faut que mon histoire ait plus de rythme. Que cela ne va pas être facile, car c'est plus facile de se laisser lancer par une scène. Donc attention au dialogue et du mouvement, de la vie. Oui, mais en même temps, pas pour des raisons d'art, je dois faire beaucoup de descriptions du dialogue intérieur, tout ce qui freine l'histoire. Alors il va falloir jongler, parler plus vite ou décrire et être coupé et entrecouper la description de bruit, de musique ou d'action très courte pour éviter que l'auditeur s'endort ou pour y mettre du rythme. Vais-je y arriver à faire tout ça? L'écriture d'un roman, d'une pièce ou d'un film, ce n'est pas la même chose. C'est trois façons d'écrire. Moi, j'écris toujours en ne pensant pas que ça va être ceci ou cela. Je veux me laisser bercer par l'histoire, ou plutôt même par l'histoire sans contrainte. Mais une fois écrite, à la préparation, on est bien obligé d'y penser un peu. J'ai de la chance, parce que pour la radio, c'est le moins contraignant. Car le test écrit peut être diffusé tel quel, avec simplement un enrobage, une mise en scène très souple, mélange de sons, de musique et de voix. Tout ça est très simple. Mais lorsque je fais pour un film, il faut bien que mon histoire devienne des scènes, des images. Il faut plus, comme l'on dit, dramatiser la chose et la visualiser. Car si l'on fait un film, c'est avant tout s'exprimer par l'image. Beaucoup d'auteurs l'oublient. Il y en a qui peinent avec leur sujet de film et qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont à dire avec l'image. Alors le son dit une chose et l'image, puisqu'il en faut bien une, montre quoi ? N'importe quoi. Ou ils se sentent tellement paralysés par l'image qu'ils n'arrivent pas à développer leur sujet. Ces personnes feraient mieux d'écrire ou de faire des émissions de radio pour s'exprimer. Non, à notre époque, si l'on ne s'exprime pas par l'image, l'on se sent en infériorité, en dehors de son époque. Moi, j'aime m'exprimer par l'image, mais je suis pas pour des raisons financières ou certaines idées que j'ai à exprimer, il vaut mieux que je le fasse autrement. Il est bien certain que mes feuilletons, par exemple, Violence et Crépuscule ou Imami, auraient coûté une fortune en feuilletons télévisés. Et si j'avais voulu absolument en faire des films, je n'en aurais rien fait. Mes histoires n'auraient jamais vu le jour. Et toute cette salade que je vous dis là depuis quelque temps pour me défouler avant le grand travail, je ne peux vous le dire devant une caméra, assis à un bureau, vous auriez zappé et vous auriez eu raison. Seul le grand Guitry aurait eu le talent de faire passer cela. Tandis qu'à la radio, c'est supportable. Enfin, je le pense. Il en faut du courage pour rester enfermé à écrire chaque jour 40 pages, 40 grandes pages. À la fin de la 40e page, on a l'impression que la tête va éclater. On a envie de courir, aller, venir. L'on est vidé. On a faim, soif. Puis au bout d'un moment, il faut que l'on s'allonge épuisé. Puis petit à petit, l'angoisse vient. Parce que vous vous demandez si vous avez bien écrit, si vous avez bien exprimé ce que vous vouliez dire. Alors vous vous levez pour rectifier. Vous vous levez plusieurs fois, vous rectifiez plusieurs fois. Puis vous pensez à ce que vous allez écrire. Pour ne pas oublier certaines scènes, vous notez chaque fois qu'une idée... chaque fois que l'idée vient. Vous vous demandez aussi si vous avez assez de scènes à écrire pour le lendemain. Et vous en trouvez d'autres que vous ajoutez au résumé, etc., etc. Impossible de se détendre à 100% tant que l'on n'a pas fini d'écrire l'histoire. Votre cerveau a envie de s'évader. Mais non, on le maintient. Vous ne pouvez même pas regarder un film ou lire un livre sans vous échapper entièrement de ce que vous avez écrit. pour qu'une histoire soit bonne, il faut faire vivre les personnages, et pour les faire vivre, il faut les sentir. Il faut leur donner une âme, un corps. C'est plus difficile dans une grande histoire où le thème principal n'est pas un personnage mais une idée ou des actions. Mais même si les actions sont bonnes, si les personnages sont aussi, l'histoire l'est aussi. Des fois, c'est au bout d'un tiers de l'histoire que je sens un peu mon personnage, ou c'est à la fin que je m'attache à lui juste avant qu'il ne s'en aille. Lorsque j'ai des difficultés à entrer dans une histoire ou à faire vivre mes nouveaux personnages, j'aime faire revivre d'anciens personnages genre Hautebord pour m'aider à faire vivre les nouveaux et ainsi avancer l'histoire qui est coincée à cause de mes nouveaux personnages et que je n'ai pas assez en main. Cela donne au public certains points de repère aussi. Mes histoires se déroulent à Lyon ou à Paris pour la plupart, mais en réalité, elles peuvent se passer n'importe où. Je pourrais donner des noms d'une ville imaginaire. Je ne le fais pas parce que je trouve que c'est plus facile pour l'auditeur ou le lecteur de s'imaginer le décor de quelque chose qu'il connaît. Il y a des endroits mystiques dans mes histoires. Et ceci depuis le début de mes écrits. Tel le lac de Montrion, le Motier, la Savoie, Deauville, Biarritz, la Bourgogne, etc. Le lac de Montrion est le plus vieux et l'hôtel du lac aussi. C'est un endroit où les gens viennent se reposer ou se suicider, où ils rencontrent de drôles de types et de drôles de choses. Le lac est hanté. En 1980, je crois, je suis allé avec un ami à ce lac. Nous y sommes restés un ou deux jours et nous avons parlé philosophie, comme l'on dit. J'ai beaucoup aimé le lieu et la discussion que nous avions eue. La personne ne croyait plus à la vie et voulait mourir, etc. Les deux personnages étranges que mes personnages rencontrent autour du lac, c'est moi et mon ami, en vieil homme ou jeune homme. Aussi dans mes histoires des personnages que vous retrouvez dans plusieurs histoires. Je vous l'ai déjà dit pourquoi et en plus c'est parce que je les aime bien. Il y a Hélène de Hautebord, femme du monde élégante un peu folle, qui fait penser un peu à ma mère. Charles, qui est un ancien ami dans mes histoires, est un jeune homme idéaliste, un peu rêveur et aussi bi. Marc, bien sûr, qui lui représente le diable, plutôt le mauvais ange, le mauvais sort. C'est un ami avec qui nous étions très proches, puis petit à petit nos idées se sont éloignées, et j'avais l'impression qu'il me portait la poisse. Et puis, lui comme moi d'ailleurs, pour lui comme pour moi d'ailleurs, le bien et le mal se mélangent. Flore, qui est la jeune fille belle et rêveuse, genre de jeune fille que j'ai connue, Monsieur de Jeanjeu, écrivain, poète, un peu moi, les Condorcet, noblesse moderne, genre bon chic, bon genre, que j'ai connu. Voilà en gros les personnages que vous rencontrez de temps en temps dans mes histoires depuis plus de 20 ans. Mais ils ont eu leur propre histoire, par exemple, Entre la lune et moi, L'au-delà du commun, Les illusionnistes, etc. Et depuis quelque temps, depuis Violence et crépuscule, des nouveaux personnages qui viennent dans plusieurs histoires. Les Pontois, les Diapes, Jeune Toux, les Francs Blancs. En plus de Marc, qui représente le destin, il y a aussi les Sept Soleils, dont vous avez fait la connaissance à partir de films intérieurs, groupe uscule très puissant. Voilà, j'ai fini mes 20 pages, il est 18h, j'ai commencé à 13h30, fin de levée de rideau. un lever de rideau qui était un peu long, excusez-moi, mais il fallait bien me mettre en voie. Parce que l'humanité cherchera toujours à savoir comment accepter la modernité sans perdre son âme, cette histoire n'aura de fin qu'à la fin des temps. À l'Élysée, un homme grand, mince, cheveux châtains clairs, yeux bleus profonds, visage un peu osseux. L'homme est distingué, il porte un costume trois pièces gris et a à la main un carton de cuir noir. C'est Monsieur Franblanc Maurice, il a 43 ans. On le mène au bureau du président de la République.
On ferme la porte derrière lui.
Le président de la République, à son entrée, s'est levé de son bureau. Bonjour, monsieur Franblanc. Venez vous asseoir.
Bonjour, monsieur le président.
Appelez-moi Gérardon. Pas de titre entre nous.
Maurice va s'asseoir dans un fauteuil Louis XV face au bureau.
Le président s'est assis aussi à son bureau. Le président de la République est toujours Marc Girardon, en réalité le fils des Hautebord. Cela fait 25 ans qu'il est aux commandes du pays. Physiquement, il n'a pas tellement changé, peut-être un peu forci, les cheveux un peu garnis sur le dessus du crâne. Il porte un costume beige clair. Maurice attend que le président lui dise pourquoi il l'a convoqué. Marc le regarde bien et lui demande « Vous allez bien ?»«
Oui, monsieur le président. »
« Non, Girardon, Vos affaires vont-elles bien aussi ?
Elles pourraient aller mieux, mais nous n'avons pas à nous plaindre. Vous nous avez donné la restauration du palais de Versailles, les Américains, la statue de la Liberté, et j'ai 3 grosses résidences de très gros standing à faire dans Paris.
Bien, très bien. J'ai quelque chose à vous proposer. Nous avons décidé, le gouvernement et moi-même, c'est de reconstruire Paris et toutes les grandes villes de France. Et nous vous donnons, bien entendu, après avoir bien réfléchi, à votre entreprise ce marché, parce que vous êtes le plus qualifié pour ce genre de choses.
Boris est surpris. Je vous remercie, monsieur Girardon, mais je ne vois pas à quoi cela peut servir. Reconstruire des villes entières, pourquoi, pour qui? Puisque toute la population est ruinée, qui pourrait payer et se reloger dans du neuf?
Vous refusez d'être mon baron Hoffmann, alors?
Monsieur le Président, du temps du baron Hoffmann, l'économie du pays n'était pas dans la même posture. Et puis, lui avait l'appui du pouvoir et de l'argent.
Si vous acceptez mon offre, cela vous fera une bonne publicité pour les autres pays.
Mais eux aussi sont ruinés.
Oui, mais si le bâtiment redémarre, cela va donner un coup de fouet à l'économie. Nous vous offrons un prêt exceptionnel et des chômeurs pour travailler gratuitement comme salaire. Ils auront droit à la nourriture, au blanchissement et seront logés par vous, par vos soins.
Et qui va m'acheter mes immeubles?
Personne qui soit encore riche et l'État qui vous aidera, qui les louera.
Mais pourquoi tenez-vous tant à reconstruire les villes?
Parce qu'on ne peut pas laisser un pays comme ça. Si nous ne faisons pas quelque chose, ce sera la fin de tout. Il ne restera plus rien. Alors nous avons pensé qu'en premier, le bâtiment, c'était bien. Parce que des immeubles, des monuments, ça se voit et ça dure. Et puis, l'on voit de suite que si un pays est bien en regardant ses villes,
Maurice lui dit, je vais réfléchir.
Donnez-moi votre réponse le plus vite possible et revenez me voir avec un dossier sur la reconstruction de Paris pour parler d'une façon concrète de la chose.
Marc se lève. Maurice se lève aussi.
Merci d'être venu.
Au revoir, monsieur le président.
Ils se tendent la main et Maurice quitte la pièce.
Une fois sorti de l'Élysée, Maurice se dirige vers sa voiture, entre dans la voiture, une Mercedes noire, pour se faire conduire par son chauffeur au siège de sa société.
Le Le siège de sa société est avenue de l'Opéra. C'est un grand immeuble du 19e. Maurice est PDG d'une entreprise immobilière de construction et de location, la Franc Blanc. C'est une entreprise familiale dont il a hérité de son père, qu'il a eu de son grand-père, qui était maçon compagnon du Tour de France. Les compagnons, qui sont les ancêtres des Templiers, car ce sont les Templiers qui ont créé le compagnonnage par respect pour le travail manuel. Et lorsque les Templiers ont été dissous, on a oublié les compagnons Templiers. Sur chaque outil d'un compagnon du Tour de France, il y a la croix du Templier dessus. Donc, puisque les compagnons du Tour de France existent encore et qu'ils descendent de leur création, ils sont les vrais descendants des Templiers. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de se faire appeler Templiers et non des espèces de sectes de toutes sortes. Mais pour Maurice et sa famille, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ce qui compte pour lui, c'est le présent et l'avenir. La voiture s'est arrêtée devant le siège. Très bel immeuble, cossu, qui ne ressemble pas à un siège. Bel immeuble, façade, balcon, sculpture, double porte de bois pour entrer et petit hall fleuri, avec porte vitrée pour entrer dans le siège. Marbre gris à terre, colonne de marbre, escalier de pierre, sculpté, lustre en cristal, huissier en habit rouge et hôtesse, banc d'accueil, salon d'attente fleuri. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.